Bonjour Axel Poniatowski.
Bonjour.
On a appris donc dans la nuit la mort de Christophe de Margerie, le patron du groupe Total. Vous le connaissiez même bien, vous l'avez rencontré de très nombreuses reprises. On parle d'un patron atypique, d'un grand patron. Qu'est-ce que vous retenez de lui ?
D'abord, je suis très ému parce que je le connaissais sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Christophe de Margerie était quelqu'un de très brillant. C'était un grand capitaine d'industrie. Et puis c'était aussi quelqu'un de avec beaucoup d'humanité et d'une très grande classe. Et je pense que en plus, sur le plan professionnel, ça porte un coup très dur à Total. Parce que il avait tissé à travers le monde, pour le compte de Total, un réseau relationnel tout à fait exceptionnel, et ce sera quelqu'un de très difficile à remplacer.
Ça n'était pas du tout le patron arrogant que, par exemple, Delphine Bateau, dans le livre qu'elle vient de publier récemment, présente, qui arrive en retard volontairement pour affirmer sa supériorité, son autorité dans les dîners importants, par exemple.
Écoutez, mais alors pas du tout. Je vois pas du tout à quoi correspond ce portrait. C'était quelqu'un de très sympathique. C'était un bon vivant. C'était quelqu'un qui avait pas du tout la grosse tête, malgré sa réussite exceptionnelle. Et au contraire, c'était quelqu'un de très simple et de très direct avec tout le monde, avec les grands et avec les petits.
Le ministre de l'économie et le ministre des finances, Emmanuel Macron et Michel Sapin, étaient hier à Berlin pour tenter de convaincre l'Allemagne de mettre la main au portefeuille pour relancer l'investissement en Europe. Pas de dépenses publiques, ont répondu les ministres allemands. Est-ce que l'Allemagne a raison d'être dans cette logique-là, ou est-ce qu'elle est égoïste ? C'est un vieux débat.
Oui, je crois surtout que Sapin et Macron ont essayé de présenter les choses. C'est tout de même un peu humiliant, cette démarche française auprès des Allemands. Le problème, en réalité, est assez simple. Il s'agit tout simplement que la France respecte le pacte de stabilité auquel elle s'est engagée. C'est pas très compliqué, non. L'attitude allemande est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas confiance. Ils craignent que la France rechute. Ils craignent surtout que les réformes structurelles ne soient pas faites et que, par conséquent, le déficit soit encore français, budgétaire, soit encore plus important que ce qu'il est annoncé. Par conséquent, il y a une inquiétude très légitime, je dois dire, de la part des Allemands. C'est ce que nous disons également. Et voilà, il faut que la France entreprenne ces réformes structurelles. Elle n'en finit pas de le faire, et c'est ce qui est attendu de la part du gouvernement français.
Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, suggérait dans la presse allemande que la France pouvait faire donc les 50 milliards d'euros d'économies annoncées, et que de son côté, l'Allemagne, compte tenu de l'état de ses finances, elle pouvait faire 50 milliards d'euros d'investissement. Ce n'était pas un bon marché, ça ?
Mais tout ça, c'est de l'habillage. C'est de l'habillage de la part des autorités françaises, tout simplement pour qu'il y ait une espèce de pacte de donnant-donnant, etc. Mais enfin, on connaît tous, on n'est pas dupes, enfin, personne n'est dupe, et vous-même, vous n'êtes pas dupe, monsieur Rivière, on connaît tous la réalité. La réalité, c'est qu'on est en train de dandeliner devant les réformes qu'on n'en finit pas de ne pas faire, et qu'il faut véritablement entreprendre. Dans tous les cas, les Allemands, dans les 3-4 ans qui viennent, ils feront naturellement ces 50 milliards d'investissements, ne serait-ce qu'à travers le secteur privé. Donc tout ça est un faux deal. La réalité, c'est qu'il faut que nous fassions des économies de nos dépenses publiques, et surtout qu'on atteigne cet objectif de 3% de déficit budgétaire auquel on s'est engagé, et auquel le gouvernement français ne parvient pas.
Oui. On a appris hier que la France avait réalisé sa troisième frappe en Irak depuis le début de son engagement sur le théâtre d'opération. Est-ce que c'est trop peu, 3 frappes depuis septembre ?
Bon, je pense que c'est à la mesure des moyens qu'on a développés sur place. On est intégré dans le système américain, et la participation française est plus politique que réellement opérationnelle. Et en cela, c'est une bonne chose. Une bonne chose que nous y soyons, c'est une bonne chose que nous participions aux frappes, et c'est une bonne chose que nous soyons intégrés dans le dispositif. Voilà, la nouveauté, le fait nouveau plutôt, aujourd'hui en Syrie, c'est le fait que les Américains aient véritablement ciblé la ville de Kobané pour venir en soutien aux forces kurdes, qu'elle ait procédé à des largages, à la fois d'armes et à la fois de médicaments.
Est-ce que ça, la France devrait le faire aussi ?
La France est intégrée là-dedans. Alors pour l'instant, la France ne veut pas aller en Syrie pour des raisons qu'on connaît, parce que elle se limite à l'Irak. J'allais dire à la limite, peu importe, elle fait partie du dispositif général. Personnellement, je trouve qu'elle devrait évidemment aussi participer en Syrie comme en Irak. Je veux dire, cette guerre, elle est globale, elle n'est pas simplement limitée au territoire irakien. On voit bien aujourd'hui qu'elle est également en Syrie. Mais le fait politique le plus important, c'est que finalement, les Américains, à travers ce qui se passe aujourd'hui à Kobané, aient forcé la main aux autorités turques pour venir en soutien des forces kurdes au sol. Et ça, c'est un fait politique important.
Un mot d'Ebola. On a entendu au cours de ces derniers jours s'exprimer l'inquiétude de certains personnels navigants sur les compagnies aériennes qui redoutent la contagion.
Oui.
Est-ce que vous les comprenez ? Est-ce que la France prend les mesures nécessaires selon vous ?
Non, c'est tout à fait insuffisant. Mais le premier point, c'est que cette maladie se développe à une vitesse exponentielle au Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Ce qui se passe au Nigeria, c'est très bien, mais il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce qu'en réalité, sur le reste du territoire ouest africain, la maladie se développe très très rapidement aujourd'hui. Et l'Europe est en train de prendre des mesures, en fait, de concertation entre elles. Il faut que ces mesures soient beaucoup plus importantes. Ce dont ont besoin ces pays, c'est plus de personnel médical. Actuellement, c'est insuffisant. Et l'installation d'hôpitaux de campagne, parce que c'est comme ça qu'on pourra aider ces pays-là. Et parallèlement à ça, il faut que nous nous protégions davantage. Et je ne comprends pas, personnellement, que Air France maintienne aujourd'hui ses vols vers ces trois destinations. Je considère que les vols d'Air France devraient être provisoirement suspendus en direction de ces trois pays.
Air France et toutes les compagnies, c'est-à-dire par
mesures sanitaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, parmi les compagnies occidentales, vous n'avez plus que Air France. Et ça fait prendre des risques importants au personnel d'Air France, qui franchement est, à mon avis, pas admissible. Et puis, ça fait prendre des risques non nécessaires à la population française et étrangère en France. Je veux dire, on joue avec le feu. Et par conséquent, moi, je demande à ce que ces vols soient provisoirement interrompus.
L'Assemblée nationale entame aujourd'hui l'examen du projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Est-ce que la mise sous condition de ressources des allocations familiales, qui est proposée par les socialistes, vous paraît aujourd'hui inéluctable ?
Bon, oui, je crains qu'elle ne le soit, et je considère et je regrette, parce que c'est un symbole très 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 fort de la politique familiale française qui est complètement remise en question, cette universalité. Vous voyez, si on avait vraiment voulu fiscaliser d'une manière ou d'une autre, ce qu'on aurait dû faire, c'est fiscaliser les allocations, mais pas supprimer les allocations à partir d'un certain revenu. Et je pense que avoir pris cette décision de cette manière-là, c'est vraiment une attaque directe contre ce qu'a toujours été la politique familiale française depuis le début de la Ve République.
Oui, elles ne seront pas supprimées à proprement parler, mais divisées par 4 pour les revenus supérieurs à 8000 euros.
Oui,
c'est effectivement une réduction.
C'est une réduction considérable.
Merci Axel Poniatowski.
Bonne
journée.